Alors, je vais vous parler effectivement de Ötzi. Alors, le titre peut vous paraître un peu bizarre, un cadavre exquis, Ötzi. J'ai choisi ce titre qui peut paraître étrange, effectivement. Les cadavres exquis, je pense que certains d'entre vous savent bien ce que c'est. Vous savez, c'est ce jeu auquel vous avez, un jeu collectif auquel vous avez certainement tous joué un jour ou l'autre, où on écrit sur un morceau de papier un nom, un sujet. On replie, on passe au suivant qui écrit un adjectif, par exemple. On replie, le suivant écrit un verbe, etc. Et ça donne des phrases totalement farfelues. Et c'est un jeu qui a été inventé par les surréalistes dans les années 1925. C'est effectivement Duhamel, Prévert, Tanguy qui ont commencé à faire ce jeu. Et la première phrase qui a été ainsi élaborée est... le cadavre exquis, le voilà, boira le vin nouveau. Voilà, donc c'est totalement farfelu, mais c'est ça. Et alors, il y a eu d'autres qui se sont faits, Breton en particulier, André Breton en a fait une espèce de collection, et ensuite, ce genre d'amusement, je dirais, s'est propagé aussi pour des romans. Et des romans policiers. Alors évidemment, c'est pas replié, il fallait quand même lire ce qui était, mais c'était des romans qui étaient écrits à plusieurs, et le premier écrivait une partie, passait ça au second, si je puis dire, qui lisait, et puis qui essayait de trouver une suite. Donc ça a donné des romans un peu bizarres. Le premier qui a été écrit, c'est L'Amiral Flottant, qui a été publié. Il a été publié en 1931. Et c'est Chesterton qui a commencé ce roman et Agatha Christie y a participé. Alors vous me direz, et ici, de quoi s'agit-il ? Ben, vous l'avez compris, c'est des romans policiers à rebondissements. Et ici, vous allez voir, c'est une histoire à rebondissements que je vais tenter de vous raconter. Deuxième remarque quand même, c'est marqué ici que c'est par Marcel Delabarre, mais ce n'est pas ma photo. Je voulais quand même le signaler. Ah, et pourquoi ça n'avait pas passé, ça ? Si, voilà. Les Alpes, ça va se passer dans les Alpes, notre roman policier, si je puis dire. Va se passer dans les Alpes et dans la région de la vallée de l'Ötztal, hein, qui est une zone des Alpes centrales, orientales, qui se trouve à la limite Italie-Autriche. Hein, l'Autriche est ici, l'Italie est ici la frontière, et ici nous avons la Suisse. Et c'est Ötztaler Alpen, comme c'est marqué ici, hein, ce qu'on appelle aussi, les Italiens l'appellent Alpi Venoste, à cause du Val Venosta qui se trouve là. Hein. Mais c'est toute cette zone, et c'est compris entre la vallée de l'Inn, qui s'en va vers Innsbruck, évidemment, et puis le Danube, et d'autre part, la vallée de l'Adige, puisque c'est l'Alto Adige dans lequel nous nous trouvons ici. Et nous sommes donc à la frontière austro-italienne, et juste précisément à la ligne de partage des eaux de ces deux fleuves, ces deux rivières, en fait. Et... c'est une région très touristique et des Allemands, des Italiens, des Autrichiens se promènent volontiers et font des excursions dans toute cette zone qui se trouve donc, vous l'avez compris, entre la Suisse, ici c'est l'Engadine avec Saint-Moritz, et puis on ne le voit pas sur la carte mais plus à l'est ici se trouvent les Dolomites autrichiennes et italiennes. Donc voilà l'emplacement où va se dérouler notre affaire. Or, le 19 septembre 1991, deux touristes allemands, Erika et Helmut Simon, qui venaient de Nuremberg, faisaient une excursion dans toute cette région. Et ils descendaient par une belle journée ensoleillée. Ils sont descendus du Finalspitz, dont ils avaient fait l'ascension, et s'en allaient pour se reposer au niveau du refuge de Simulaun. Et ils ont arrivé au Tiesenzorch. Voilà ici, ils ont descendu du Finalspitz ici, et ils allaient ici, vous voyez où il y a un petit lit ici, c'est le refuge donc de Simulaun. le Simulaun étant un sommet qui se trouve à cet endroit. Et ils, au lieu de suivre le chemin balisé, ils ont à un moment trouvé, eu l'idée de prendre, ils étaient arrivés ici, et ils ont pris l'idée de prendre un chemin de raccourci, une espèce de raccourci, pour se rendre au refuge de Similaun qui se trouve ici, et eux, ils étaient là, hein, puisque c'était à ce niveau-là qu'ils se trouvaient, donc, à ce moment-là. Et là, au détour du chemin, ils firent une découverte macabre. Ils ont en effet vu un cadavre qui se trouvait là. Ils ont été très, très impressionnés par ce cadavre et ils ont poursuivi leur trajet jusqu'au refuge où ils sont arrivés. Et là, ils ont prévenu le gardien du refuge, Marcus Pierpamer, qui a écouté, et puis il a voulu, étant donné qu'on avait trouvé un cadavre, il a voulu, mais qui se trouvait en fait à la limite de la frontière, donc il ne savait pas très bien, on ne savait pas très bien si c'était du côté autrichien ou du côté italien, et en conséquence de quoi, il a prévenu d'une part les carabinieri de Senales, ici, hein, on est ici en fait, hein. Voilà où on a trouvé le cadavre. Et on a trouvé, il a prévenu donc, il a téléphoné aux carabinieri de Senales et aussi aux gendarmes de Zölden, ici, en Autriche. Le soir, Pierpamer est allé quand même voir un peu ce qui se passait là-bas, il a vu, bon, et puis il est revenu. Et c'est seulement le lendemain qu'on a pensé, bien sûr, que c'était un alpiniste qui avait dévissé quelque part et puis qui s'était tué il y a quelques années, certainement, vu l'état du cadavre. Alors, le lendemain, donc on est le 20 septembre, le lendemain, un gendarme de Zölden est venu voir ce qu'il en était. Il a regardé il a pensé effectivement que c'était un cadavre donc d'un touriste, d'un alpiniste, disons, qui était venu dans cette région. Comme ce gendarme, il n'a pas pu déterminer, en fait, quand il était mort. En tout cas, il a pris un espèce de piolet qu'il a trouvé à côté du cadavre et il a ramené ça à la gendarmerie de Zölden. Bien sûr, on ouvre une enquête contre X, puisqu'on ne savait pas ce qui s'était passé. Car des bruits couraient quand même qu'il avait des blessures. Donc, il fallait ouvrir une enquête. Le 21 septembre, donc le surlendemain, disons, de la découverte, deux alpinistes du Haut Adige, qui étaient des alpinistes bien connus, et d'autre part qui avaient fait également des excursions en Himalaya, etc., ont entendu au refuge, ils étaient au refuge, et ils ont entendu parler de l'affaire. Ils sont allés voir, et ils étaient accompagnés d'un guide, et les voilà ici. Ces deux alpinistes sont d'une part Kammerlander, qui est ici, et Messner, ici, Reinhold Messner, que certains d'entre vous, quelqu'un d'entre vous connaît bien, sont venus voir. Et ils ont trouvé quand même qu'il était, ce cadavre, le voilà ici, était drôlement habillé. Voilà, c'est tout ce qu'ils ont remarqué. Et le lendemain, bien sûr, ça a été rapporté. Et le lendemain, tous les journaux, aussi bien italiens qu'autrichiens, relataient ce phénomène, ce fait. Hein, là, c'est le prisonnier des glaces. Est-il le corps d'un guerrier? Et puis, bon, je ne vous traduirai pas le reste parce que je ne connais pas l'italien. Hein, mais vous pouvez, ceux qui connaissent l'italien, peuvent traduire au moins ce qui est là. Hein.
De coups de fouet sur l'épaule.
Voilà, oui, il y avait, c'est pour ça, c'est les fameuses blessures dont je parlais il y a un instant, hein, qui étaient quand même repérables. Alors, le lendemain, donc, non, c'est ce même jour, il y a un sauveteur en montagne, Alois Pierpamer, il n'est pas de la famille de Marcus Pierpamer qu'on a vu tout à l'heure, hein, qui était le gardien du refuge, mais c'est Pierpamer, donc, et un ami continue de dégager le cadavre parce qu'il était dans la glace, hein, dans le glacier, et il était à plat ventre, le bras gauche, pardon, c'est pas ça que je voulais montrer, bon ça fait rien, on le verra tout à l'heure, il était à plat ventre, donc le bras gauche replié, et ma foi, il a, Aloïs Pierre-Palmer, a ramassé un peu tout le matériel, parce qu'il y avait tout un matériel qui était autour de lui, il a repris tout ce matériel et a ramené tout ça à Vent, où il logeait. Hein, il était à l'hôtel à Vent, et donc il a tout ramené là, dans un sac poubelle d'ailleurs. Hein. Le lundi 23, arrive quand même, parce que les autorités avaient quand même été prévenues, et le lundi 23, arrive sur les lieux Rainer Hahn, qui est de l'Institut médico-légal de Innsbruck. Il dégage, il continue à dégager totalement cette fois le cadavre, et ils l'ont placé, le voilà, ici, voilà, Hahn, hein, ici, ils prennent le cadavre, ils le dégagent, et ils le placent dans un sac mortuaire, vous savez, comme ça se fait en Allemagne ou en Autriche, et avec les habits qui sont là, enfin les restes d'habits qui sont là. Et il va être transporté par hélicoptère jusqu'à Vent, voilà ici, hein. Il est transporté par hélicoptère jusqu'à Vent, après quoi il sera mis dans un corbillard pour être emmené à Innsbruck, à l'Institut médico-légal, bien sûr. Comme ce cadavre présentait des particularités étranges quand même, le 24 septembre, on fait appel à un archéologue, un anthropologue d'Innsbruck, qui est Konrad Spindler, pardon, qui est appelé donc pour voir un peu ce qu'il était de ce cadavre qui paraissait quand même un peu bizarre. Et d'après les objets trouvés, Spindler précise que cet homme a vécu il y a au moins 4000 ans. Donc, il fallait évidemment préserver un tel trésor, et on l'a mis dans un lieu avec une température de moins 6 degrés, et en prenant force précaution, parce que ça semblait quand même quelque chose de vraiment très particulier. D'autant qu'il commençait à sentir, donc il fallait le mettre au froid, si je puis dire. Par la méthode au carbone 14, on a pu préciser l'âge qu'il avait. La méthode au carbone 14, je ne vais pas faire un cours là-dessus, mais je vous signale quand même la façon dont ça se passe. Dans l'atmosphère, il y a du carbone 12, qui est le carbone normal, et il y a un peu de carbone 14, qui est un carbone radioactif. Et il y en a toujours la même proportion. Mais ce carbone radioactif, nous en fixons nous-mêmes, mais quand il est fixé dans les êtres vivants, il va perdre progressivement de sa radioactivité. Et là, ce qu'on appelle une période de 5730 ans, dit, ça veut dire qu'il a perdu la moitié de sa radioactivité au bout de 5730 ans. Ça permet, la mesure du carbone 14 permet donc de savoir de façon assez précise l'âge d'un cadavre, d'un document, etc. Vous savez, les documents de la mer morte ont été datés de cette manière-là, etc. Et là, on a pu dater, donc, de façon précise, le fameux cadavre qui avait été trouvé. Il a donc un âge de 3350 à 3100 années avant Jésus-Christ. Autrement dit, il faut y ajouter 2000 ans. C'est donc un cadavre qui a 5200 ans, on va dire, à peu près. 5200 ans. Alors, quand même, il faut quand même replacer un peu les choses. 5200 ans, par exemple, le site de Stonehenge en Angleterre a été érigé 1500 ans plus tard. 1500 ans plus tard. La civilisation minoenne de Crète a presque 1000 ans plus tard. 1000 ans après ce cadavre. La pyramide de Khéops, 600 ans plus tard. Et on pense, enfin on peut dire même que c'est quelque chose, il a un âge, disons, qui est quelque chose comme 100 ans, un peu à peu près 100 ans, avant le début de la période sumérienne, hein, la période Uruk. Alors du point de vue archéologique, il faut dire que l'ère quaternaire se divise en plusieurs parties. on a le paléolithique. Les dates qui sont, j'ai mises ici, sont approximatives. Hein, simplement, elles sont simplifiées, disons, pas approximatives, simplifiées. Le paléolithique, qui est l'ère de la pierre taillée, hein, et avec le paléolithique inférieur, moyen, supérieur, et puis on va laisser celui-là de côté, ça date à peu près d'un million d'années, grosso modo, et ça vient, ça, jusqu'à moins 12 500, à peu près 10 000. Hein. Ensuite, on a le mésolithique, 10 000, le néolithique, 5 000, et après, on a l'âge des métaux, avec d'abord l'âge du cuivre, à peu près 3 000 ans avant Jésus-Christ, hein. L'âge du bronze à peu près 2000 avant Jésus-Christ, l'âge du fer à peu près moins 1000 avant Jésus-Christ. Donc. Et puis après on a l'ère chrétienne et enfin on arrive à aujourd'hui. Eh bien notre cadavre, hein, 3200 ans avant Jésus-Christ, il se place donc, vous le voyez, juste à l'âge du cuivre. Hein. C'est donc un homme qui est de l'âge du cuivre. On l'a même plus précisé qu'il était... Du groupe de Remedello 1, à peu près. Alors, ces groupes, ça correspond à des nécropoles ou des documents qui ont été trouvés. Ici, c'est une nécropole qui, en Italie, et c'est l'Italie du Nord, hein, a été découverte près de Brescia. Et vous voyez ici, Remedello 1, on est à peu près, hein, 3200, on est donc moins 3200, on est donc bien dans cette zone-là, et c'est bien l'âge du cuivre. Voilà donc ce que l'on peut dire de ce cadavre qui a été trouvé et qui a donc 5200 ans par rapport à nous. Alors maintenant qu'on connaît son origine, il fallait donner un nom à ce cadavre prestigieux. Alors il y a eu des quantités de noms qui ont été proposés. On a voulu l'appeler l'homme de Hauslabjor, hein, qui est un Jor, le suffixe Jor. En allemand, veut dire le col. Hein. On l'a appelé le Tizenjor, l'homme de Tizenjor. C'est exactement l'endroit où il a été trouvé, il y a un petit col, qui est donc le Tizenjor. On l'a appelé aussi l'homme de Similaun, puisque c'est là, vous savez, qui était le refuge. Mais la dénomination officielle date beaucoup plus tard, du 2 juillet 1997. Donc on a attendu 6 ans quand même. Et le nom officiel, c'est le Der Mann aus dem Eis, hein, en allemand, ou bien l'Uomo venuto dal ghiaccio, hein, autrement dit l'homme des glaces, hein, venu des glaces. Mais en fait, il est beaucoup plus connu sous le nom que vous avez vu tout à l'heure dans le titre, Ötzi. Alors Ötzi, pourquoi ? Ben, tout simplement parce qu'il a été trouvé dans les Ötztaler Alpen, donc dans la vallée de Lötz, hein, et voilà pourquoi on l'appelait Ötzi. En fait, c'est un journaliste autrichien qui a donné ce nom dès le début, je dirais, peu de temps après sa découverte, donc en 1991, et c'est ce nom qui est resté. Alors, vous savez, c'est toujours pareil, on donne des noms comme ça, vous avez entendu, vous savez, il y a un fossile humain, enfin préhumain, qui est bien connu, c'est Lucie. Hein, vous avez entendu parler de Lucie. En fait, c'est un Australopithecus afarensis, voilà son nom officiel, je dirais, mais il ne reste pas moins qu'il a été découvert par Coppens en 1974 en Éthiopie, et il lui a été donné le nom de Lucie, tout simplement parce que, en référence, disons, à une chanson des Beatles qui s'appelait Lucie et qui était chantée à l'époque. Voilà l'origine de Lucie. Alors Ötzi, c'est un peu la même chose, si je puis dire. Un autre problème se posait. À qui appartenait Ötzi ? Vous avez vu où on l'a trouvé ? À la frontière. Alors il était italien ou il était autrichien ? C'était un grand problème. Et la ligne de partage des eaux à ce niveau est très, très imprécise, parce qu'on est au milieu d'un ensemble de glaciers, et par conséquent, c'est relativement très imprécis. Si bien que le 2 octobre 1991, on a essayé de voir exactement où était la frontière. Parce qu'on a repéré quand même la frontière, elle datait de 1919, hein, puisque c'est à cette période-là que le Trentin, l'ensemble du Trentin, qui était autrichien, a été rendu à l'Italie. Donc, c'était la ligne de partage des eaux entre l'Inn et l'Adige qu'on a placé cette frontière. Il y avait quelques bornes et on a pris une limite, on a tracé la ligne entre deux bornes Hein, et on s'est aperçu que effectivement, Ötzi, voilà ici, vous voyez, voilà le, où on l'a trouvé, et la frontière, là voilà, hein, c'est la ligne jaune qui est là. Il était à 92 mètres 56 de la frontière, du côté italien. Ötzi était donc italien. Voilà. Mais il n'en reste pas moins que il est resté, il avait été emmené, vous avez vu, il a été emmené en hélicoptère et puis après jusqu'à Sölden et puis après à Innsbruck. Hein, il a été emmené à Innsbruck. Alors, en accord avec les autorités italiennes, pendant tous les examens scientifiques qui ont pu être faits, il est resté à Innsbruck. Et c'est seulement en 1998, le 16 janvier 1998, qu'il a été ramené, je dirais, en grande pompe, le voilà, hein, en grande pompe funèbre, évidemment, hein, à Bolzano, où un musée archéologique a été créé et n'a été ouvert. En fait, il est arrivé le 16 janvier 1998, sous bonne garde, hein, parce que c'était un matériel précieux. Et on l'a placé dans ce musée archéologique du Haut-Adige, qui a été construit exprès pour lui. Et on peut y est conservé, toujours, hein, maintenant, il y est conservé dans des conditions très précises, à une température de moins 6 degrés et avec 98% d'humidité relative. Hein, et on peut le voir, voilà ce qu'on peut voir, à travers un hublot, hein, en verre blindé, parce qu'il ne faut pas qu'on le vole. Hein, voilà donc comment vous avez pu le voir, donc à Bolzano. Bien, il est temps maintenant de nous intéresser à lui. Qui était-il et quel était son équipement? Hein? En effet, il n'y a pas de différence entre Ötzi, on va l'appeler par son nom maintenant, entre Ötzi et nous-mêmes. En effet, les âmes sensibles ferment les yeux. Voilà le comment on peut le trouver. Il a la même tête que nous, si je puis dire. Ah bah oui, quand même. Enfin, presque. Allez, on va dire presque. Hein? C'est donc un homo sapiens, il n'y a aucun doute, évidemment, à cette époque-là.
Il avait ses dents.
Oui, il avait des dents. Je vais en dire un mot. Hein? Il était donc à plat ventre. Hein? Là, il est retourné, bien sûr, mais il était à plat ventre. Et il avait le bras gauche replié devant lui. Et d'autre part, il avait également la main droite, voilà ici, tel qu'il a été retrouvé. La main droite était repliée. Et manifestement, il devait tenir quelque chose qui a été avéré. Il s'est avéré que c'était un poignard. C'est pas un poignard en métal, comme vous le connaissez, on est à l'âge du cuivre seulement. Hein? Donc, comme dans toute enquête, évidemment, on a décrit le cadavre dans le détail. Il mesure 1m54, en fait il devait mesurer 1m60, parce que depuis il s'est desséché un peu, si je puis dire. La taille de ses chaussures devait être de 38, il devait chausser du 38. Il devait peser 50 kilos. À l'heure actuelle, il pèse 13 kilos. Mais parce qu'il a été desséché, si je puis dire. C'est un être masculin, c'est un être humain de sexe masculin. Alors là, on a raconté des tas d'histoires parce qu'au début, on avait trouvé qu'il n'avait pas de partie génitale. Alors on ne savait pas très bien de quoi il s'agissait. Et en fait, si, il en avait, et par conséquent, c'était bien un homme. Ses yeux ouverts étaient bruns. Il avait les yeux bruns. Alors, bien que le cadavre fût dépourvu de cheveux, on a retrouvé à côté de son cadavre des touffes de poils, dont certains ont permis de dire qu'il avait des cheveux ondulés, bruns. On a trouvé aussi quelques autres poils qui ont laissé supposer qu'il avait une barbe. Alors, on a retrouvé d'ailleurs dans ses cheveux, à l'analyse détaillée, on a retrouvé des traces d'arsenic. Alors, ne n'imaginez pas des drames catastrophiques, mais ça laisserait entendre qu'il a dû travailler au cuivre. Parce que le cuivre contient toujours un peu d'arsenic, et donc si on a trouvé cet arsenic, c'est qu'il a dû travailler le cuivre. Il avait un diastème des incisives. Vous savez, le diastème, c'est les dents du bonheur. Vous savez, les dents, les deux incisives qui sont écartées. Alors, c'était un homme heureux, sûrement. Hein. Il n'avait pas de dents de sagesse. Moi non plus. Et pas de caries. J'allais dire moi non plus. Mais il avait des dents usées. Moi aussi. Quel âge avait-il ? Eh bien, ce n'est que par l'analyse osseuse. Alors là, c'est des systèmes très compliqués où il faut analyser au microscope l'os pour voir ce qu'on appelle les ostéons, c'est-à-dire des systèmes de formation de l'os qui permettent de définir à peu près l'âge. Je n'entrerai pas dans les détails. On a déduit qu'il avait à peu près 45 ans. Enfin, entre 40 et 5 ans, parce que là, on ne peut pas donner des dates très précises. Ce qui était un âge très avancé pour un homme de la proto-histoire. Hein ? À partir de ces informations, on a pu établir un, ou plutôt des, portraits robots qui ont été établis. C'est celui que vous avez vu tout à l'heure. Hein, je vous avais dit que ce n'était pas moi, effectivement, c'était Ötzi. Hein, mais ce n'est pas le seul qu'on ait élaboré. En voilà un autre. Vous voyez, il ne se ressemble pas vraiment, mais enfin, on retrouve les mêmes caractéristiques. Celui-là a été tracé par un criminologue autrichien, donc qui faisait des portraits robots, et il en a fait un, donc, de Ötzi. Par ailleurs, on a pu noter qu'il avait tout un ensemble de fractures, en particulier des côtes. Il avait des fractures de côtes, il avait le nez cassé, enfin il avait une fracture du nez. Hein. Et à noter d'ailleurs qu'il n'avait pas, il avait que 11 paires de côtes, il n'avait pas 12. Alors c'est pas Adam hein, qui on a retiré une côte pour donner Ève. Non, non, pas du tout. Mais c'est des anomalies qui se trouvent de temps en temps. Il y a des gens qui n'ont pas de 12e paire de côtes, ça arrive. De même qu'on peut avoir une vertèbre en moins ou des choses de ce genre. Plus étrange, on trouva sur son corps des tatouages. Et ici, il y a des tatouages. Or, il y en a une cinquantaine sous forme de traits essentiellement et de croix aussi dans le dos et au niveau des jambes et des pieds. Si on regarde sur un schéma, voilà où on a trouvé, on vient de voir ces tatouages-là, mais vous voyez, il en a d'autres, et puis il en a au niveau donc des jambes et des pieds. En fait, alors, c'était pas fait avec des aiguilles, comme les tatouages d'aujourd'hui, hein, c'était fait avec des incisions, c'était des incisions, et qui étaient, j'allais dire, colorées par du charbon de bois. Hein, c'est ça, en fait, qui donnait ce type de tatouage. Et d'autre part, ce n'était pas pour faire chic comme aujourd'hui, on se fait faire des tatouages, mais c'était certainement dans un but thérapeutique, un peu comme l'acupuncture à l'heure actuelle. Parce qu'on a observé, effectivement, parce qu'on l'a quand même examiné sur toutes les coutures, c'est le cas de le dire, on s'est aperçu que tous les endroits où il avait ses tatouages étaient des endroits où il y avait de l'arthrose, hein, au niveau du dos, au niveau des articulations, au niveau des pieds, etc. Donc en fait, c'était certainement pour soigner son arthrose. Bien sûr, c'est hypothétique. Hein. Enfin, on pense que c'est cela qui explique ses tatouages. Quant à ses vêtements, s'ils ont été détériorés sur la face dorsale, puisqu'il était à plat ventre, ils ont été très bien conservés sur la face ventrale. Et ça, c'est une chance extraordinaire, parce qu'en fait, il a été, j'allais dire, surgelé. Hein, et comme il était dans la glace de cette manière, les vêtements qui sont en matière organique auraient complètement disparu. Depuis 5200 ans, il est bien évident que tout ça aurait disparu. Et là, effectivement, on a ces vestiges qui sont absolument remarquables et très intéressants du point de vue archéologique. Cet habillement comprenait un ensemble de pièces et nous allons détailler un petit peu ce que nous avons retrouvé comme vêtements sur lui. Il avait un manteau. Alors, c'est pas tout le manteau, c'est une partie du manteau, ça, je l'ai marqué là, c'est un fragment du manteau. Ce manteau, il était en fourrure de chèvre. Vous voyez, on voit bien que c'est de la fourrure. Fourrure de chèvre, c'était une espèce de patchwork de fragments de peau de chèvre, en fait, de fourrure de chèvre, et qui était relié, vous le voyez ici, ça se voit, hein, avec des points de surjet. C'est extraordinaire. Des points de surjet, et avec quoi ces points étaient faits? Avec des tendons d'animaux. C'est des tendons d'animaux qui servaient de fil, en définitive. C'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Alors vous me direz, mais cette peau, comment elle était préparée? Eh bien, elle était tannée, pas comme on le fait aujourd'hui, mais elle était tannée à la graisse et à la fumée. La fumée permettant de redonner une certaine souplesse à ces peaux de chèvre, hein, ici, de chèvre domestique. On y reviendra tout à l'heure. Apparemment, il n'y avait pas de manches visibles. Alors, est-ce qu'il y avait des manches, est-ce qu'il n'y en avait pas? On n'en sait rien. Mais il n'y avait pas de manches visibles. Pas de fermeture non plus. Donc, ça devait être fermé par une ceinture ou quelque chose comme ça. Il avait par ailleurs un pagne. Un pagne, 50 cm de long et je ne sais plus combien de large, 30 cm de large. Hein. Il y avait 1 mètre de long, pardon. On a 1 mètre de long et il y avait seulement 50 cm qui ont été retrouvés. La face ventrale était bien en bon état, mais la face dorsale, vous voyez, on en a seulement quelques fragments. Ce pagne était également en cuir de chèvre, hein, et avec des points, là aussi, avec des points de surjet qui permettaient d'assembler les parties. Et d'autre part, il y avait cette partie-là, ça ne se voit pas très bien ici, mais cette partie-là pouvait se rabattre. Hein. Autrement dit, ça permettait de rabattre sur certainement une ceinture. On va y revenir. Parce que cette ceinture, on l'a effectivement retrouvée. Voilà la ceinture. On a retrouvé la ceinture qui est en cuir de veau. Donc vous voyez, on a toutes sortes d'animaux, on va y revenir, on en dira un mot tout à l'heure. Elle mesurait, semble-t-il, 2 mètres de long sur 4 à 5 cm de large. Comme ça, à peu près. Et si bien qu'elle devait faire deux fois le tour du corps. On ne sait pas très bien comment, mais ça devait faire deux fois le tour du corps. Et elle était fermée par un nœud, on le voit très bien ici, hein, ça se voit parce que c'est sur la face ventrale, donc on le voit bien. C'était fermé par un nœud ici. D'autre part, elle présentait des coutures décoratives, vous voyez, ça se voit ici, toutes ces coutures décoratives, et ces coutures décoratives formaient une poche. On voit très bien que c'est une poche que nous avons ici. Et dans cette poche, il y avait tout un matériel hein, qui est retrouvé ici. Il y avait un grattoir en silex, hein. Il y avait un perçoir également en silex, il y avait une petite lame très coupante en silex, et puis il y avait une haleine ici, qui était en... Alors, je ne sais jamais en quoi elle est, cette haleine, elle est en os, et elle faisait 7 cm de long. C'est cette haleine, c'est avec une haleine de ce type que les coutures devaient être faites. En effet, il faisait un trou avec la laine en question, vous voyez, c'est très pointu, hein. Il faisait un trou et puis il passait ensuite les tendons qui servaient de fil, et puis il faisait un point de surjet de cette manière-là. C'était pas avec une aiguille à chat. Vous savez, les aiguilles à chat, c'est HAS, hein. C'est pas des aiguilles qui miaulent. Des aiguilles à chat qui auraient fait des trous trop grands. Et bien que les aiguilles à chat existaient déjà depuis le Magdalénien, c'est-à-dire le Paléolithique supérieur, on a retrouvé des aiguilles en os, hein, des aiguilles à chat en os. Mais là, ce n'est pas comme ça que c'était cousu. D'autre part, cette haleine devait peut-être servir aussi à faire les tatouages. Hein, je vous dis tout à l'heure, ça faisait des incisions. Eh bien, c'est peut-être ces haleines qui permettaient de faire ces incisions. Et puis, il y a encore une chose dont je n'ai pas parlé, c'est ça, c'est son briquet. Enfin, son briquet, on va appeler ça comme ça. C'est un fragment d'amadou. L'amadouvier, c'est un champignon et qui a une moelle, si vous voulez, qui s'enflamme s'embrase facilement, à condition évidemment, bah, par exemple, de frotter un silex avec de la pyrite. Et je dis ça tout simplement avec de la pyrite. Ici, c'était de la chalcopyrite, c'est-à-dire les pyrites, c'est des sulfures de fer, et la chalcopyrite, c'est des sulfures de cuivre. Et étant donné qu'on a retrouvé des traces de chalcopyrite dans l'amadou en question, ici, dans son briquet, on en déduit qu'il a dû servir de cette manière-là. Donc voilà, l'amadouvier s'enflammant relativement facilement. Mais à une condition, c'est que cet amadou soit bien sec. Bon, il fallait le mettre à l'abri. C'est la raison pour laquelle il était dans cette poche. Hein. Et comme ça devait être ça sous le pagne, vous savez, sous le rabat du pagne, c'était très bien protégé. Il portait d'autre part des jambières. Des jambières qui étaient en cuir de chèvre, en fourrure de chèvre, là aussi, toujours fait de la même manière, avec des espèces de patchwork, hein, et qui faisait 65 cm de long, ces jambières, donc elles couvraient la jambe et la cuisse. Hein, autrement dit, c'était quelque chose d'important. Et en haut, si on regarde le sommet ici de plus près, voilà comment ça se présente, on s'aperçoit qu'il y a une espèce de repli ici, et ici, une lanière qui devait être accrochée comme une jartelle à la ceinture qui était au-dessus. Ainsi, c'était bien maintenu. Ça fait tout à fait penser aux leggings des Indiens d'Amérique, hein, qui rappellent un petit peu cette structure. Quand on l'a sorti, on s'est aperçu qu'il avait encore une chaussure au pied. Je n'ai pas pris une photo de ça, mais on a pu. C'est la plus ancienne paire de chaussures que l'on connaisse, hein, évidemment. Alors, comment était-elle faite, cette chaussure? Voilà sa chaussure. Il y avait une partie interne et une partie externe. La partie interne était une espèce de treillis, si vous voulez, fait en fibres de tilleul. Hein, c'est des fibres de tilleul qui étaient donc assemblées de cette manière. Et puis l'empeigne, la partie externe, que voici ici, était en cuir de... Alors, c'est du cuir de cerf, je crois, si je me souviens bien. Oui, du cuir de cerf avec le poil du côté externe. Hein, autrement dit, il y en a qu'un peu, hein, il en reste qu'un petit peu ici des fragments. Et entre la partie interne et la partie externe, il y avait du foin. On voit bien ici d'ailleurs. Hein. Il y avait donc du foin, ça tenait au chaud. Et d'autre part, la partie interne, et le treillis qui est là, le filet qui est là, et l'empeigne qui est là, était fixée sur une semelle, bien sûr, une semelle en cuir d'ours, et avec la fourrure du côté interne. C'était confortable, avouez. Hein, donc c'était du côté interne que se trouvait cette fourrure. D'autre part, il y avait des lames de cuir, hein, qui étaient en dessous et qui évitaient de déraper. N'oublions pas qu'il était quand même dans une région où il y avait pas mal de glace. On est arrivé à reconstituer les chaussures, enfin, si je puis dire, de cette époque. Voilà la reconstitution du filet, la reconstitution de l'empeigne, le foin entre les deux, le fond ici, vous voyez, c'est la fourrure d'ours, et ici la semelle avec les lames de cuir qui évitaient de déraper. Voilà ce que l'on peut dire de ces chaussures. À côté du cadavre, on a aussi retrouvé un bonnet en fourrure d'ours. Il est joli ce bonnet, hein, avec la fourrure du côté externe. Et il y avait deux lames de cuir qui permettaient de le lier sous le menton. Hein. Voilà ce que l'on a trouvé. On a encore retrouvé une sorte de natte dont on ne sait pas très bien comment il s'en servait parce qu'elle était en trois morceaux et pas facile à repérer. Ça, c'est un fragment de la natte. Alors, est-ce que c'était une natte qu'il avait par-dessus ses vêtements, les vêtements qu'on a décrits jusqu'ici, ou est-ce que ça servait de tente, parce que vu la forme, ça pouvait servir de tente sous laquelle il pouvait s'abriter. cette natte, elle est en herbe des marécages, en une espèce de jonc, si vous voulez. Mais regardez la façon dont elle est tressée. Hein. C'est extraordinaire. On a ici les fibres, enfin les tiges de jonc, hein. Et puis ici, on a le tressage qui a été fait de façon absolument remarquable. Donc voilà, pour cette natte. En tout cas, on peut noter ce tissage, je dirais, qui date quand même dès la fin du néolithique. Hein. Donc ça remonte quand même à plus de 5000 ans, cette affaire-là. On a pu ainsi reconstituer la garde-robe de Tsi. Hein. Voilà, pour résumer un petit peu tout ce que nous avons dit. Alors on va partir de la gauche ici, le voilà avec sa natte, voilà la fameuse natte en herbe des marécages, on a la paire de chaussures, en dessous on va voir ce qu'il y a, il y a le bonnet hein, qu'on a trouvé, le bonnet en fourrure d'ours, alors là on a retiré la natte et voilà le manteau, hein. Alors là il y a des manches, mais bon, ça on n'est pas sûr du tout qu'il y ait des manches, on n'a pas retrouvé de traces en tout cas. Et puis il y a la ceinture, ici il retire le manteau, et ici voilà le pagne avec, vous voyez, ce rabat du pagne sur la ceinture qui est là, les jambières ici qui sont attachées, vous le voyez, à la ceinture que nous avons là, hein, et qui, comme des jartelles si vous voulez, avec qui descendent donc jusqu'au pied. Il était quand même bien abrité, il est vrai que c'était pas une région où il faisait très très chaud. À partir de ces divers éléments, on a pu élaborer une reconstitution de Ötzi, et il y en a une reconstitution donc au muséum de Bolzano, que voilà. Alors on le retrouve là, avec son bonnet, sa natte, le manteau, les chaussures, et puis ici bien sûr, il y a aussi tout un ensemble de matériel hein, qui correspond à son équipement que l'on va décrire maintenant. Il faut dire, j'ajouterai une chose, c'est que la reconstitution de tous ces vêtements fut un long travail qui a demandé 3 années. Ça a demandé 3 ans pour arriver à connaître tout ce que je vous ai raconté jusqu'ici. Et c'est à l'Institut de Mayence, dans la Rhénanie-Palatinat, hein, donc en Allemagne, que les analyses ont été faites. Et c'est ainsi qu'on a pu savoir de quel animal était telle partie de l'habillement, etc. Et vous avez vu qu'il y avait quand même différents matériaux qui ont été utilisés. Hein, si on se résume, il y a de la peau de chèvre domestique, il y a de la peau d'ours, il y a de la peau de cerf, il y a la peau de veau, il y a des tendons de muscles hein, qui servaient de fil, comme nous l'avons dit. Il y a des fibres de tilleul qui servaient pour faire le tressage, par exemple, des chaussures. Il y a les herbes des marécages. Donc, vous voyez, il y avait énormément de matériaux qui étaient utilisés pour assurer cet habillement. Mais en examinant Ötzi et les alentours, on a donc retrouvé tout un ensemble d'objets qui constituent son équipement. Et là, nous sommes en pleine enquête judiciaire, hein, puisqu'on a des petits numéros qui disent où on a retrouvé les objets. Il faut dire que Alois Pierpamer, vous vous souvenez, c'est le sauveteur là qui était venu, qui avait tout ramassé, mais il avait quand même pris soin de noter où il avait trouvé les différents objets. Donc on a pu retracer et savoir où étaient les différents objets. Alors en 4, ici, nous avons, c'est là qu'était Ötzi, hein, il était là. Ici, hein, en 4. D'autre part, on a trouvé à côté, en 7 ici, c'était son bonnet d'ours, bon, qui a été détaché de la tête, mais qui a été retrouvé ici. Et puis ici, on a retrouvé à 4 mètres de lui, hein, c'est-à-dire c'est l'échelle ici, vous pouvez vous en rendre compte par les personnages qui sont là, bon, il y a une perspective, forcément, ils sont plus loin. Mais là, à 4 mètres de lui, il y avait un carquois, on va y venir tout à l'heure. Et puis on a trouvé aussi un arc ici, en 2, hein. On a trouvé ici en 6 une clé de portage, j'y reviendrai. Et d'autre part, on a trouvé ici une hache. La hache, c'était, vous savez, ce piolet, ce qu'il a cru être un piolet, qui a été redescendu à la gendarmerie de Zölden. Eh bien, c'était en fait une hache. Et puis ici, on a trouvé également un petit récipient, on y reviendra tout à l'heure également. Alors voyons un petit peu quels étaient ces différents objets qui ont été ainsi retrouvés. On va commencer par la hache. La hache qui est vraiment l'objet le plus prestigieux de l'équipement de Tsi. En effet, c'est un manche ici en if, un manche courbé en if, et d'autre part, il y a une lame en cuivre. En cuivre. Du cuivre pratiquement pur, 99,7% de cuivre. Hein? Donc c'est, on peut dire que c'est du cuivre pur. N'oublions pas, on est à l'âge du cuivre. Et ça, c'était quelque chose de tout à fait prestigieux, car c'était quand même un objet très rare. Cette lame était maintenue ici par des lanières de cuir. Hein. On voit très bien ici l'encoche, hein, l'encoche qui est là, dans laquelle était enfilée cette lame. Et cette lame, elle a servi, enfin cette hache, elle a servi, car la lame présente des traces, donc il n'y a pas de doute, c'est quelque chose qui avait servi. Voilà, pour cette hache qui était vraiment quelque chose de tout à fait particulier. On a retrouvé également, donc c'était quand même, c'était l'objet que devait avoir quelqu'un d'important, un chef de groupe, un guerrier, quelque chose comme ça. Parce que ce n'était pas permis à tout le monde d'avoir des objets en cuivre à l'époque. Aujourd'hui aussi, le cuivre est recherché puisqu'il est volé partout. On a également trouvé sur lui, puisqu'on est dans les armes, on a également trouvé sur lui un poignard. Un poignard qui était constitué d'un manche ici qui est en bois de frêne et puis la lame, si je puis dire, est en silex, maintenue par des cordons ici de cuir. Hein, et ce poignard était dans une enveloppe, un étui qu'il avait ici, un fourreau, qui était tressé également en fibre de tilleul. Donc vous voyez que c'est tout ça est très très bien élaboré. Ça devait être accroché à sa ceinture, certainement. Mais on l'a retrouvé sous lui, mais pas en place, disons. Un autre objet très étrange dont on s'est demandé ce que c'était. Voilà l'objet qu'on a trouvé. En fait, c'est ce qu'on appelle un retoucheur ou un retouchoir. Et c'est constitué de la façon suivante. Voilà ici ce retouchoir, c'est le même. Hein, ici, on a des dessins. En fait, il est en bois de... Alors, je ne sais jamais dans quoi c'est. C'est en bois de... Où est-ce que c'est ? En bois de frêne. Hein, il est en bois de frêne. Et ici, il y a une éclisse à l'intérieur qui est en bois de serre. Ce n'est pas le même bois. Hein. En bois de serre qui a été durci au feu. Ça donne donc un tranchant ici et une pointe qui est très très résistante, très solide. Et ça permettait certainement d'affiner, si vous voulez, le coupant des silex et d'autre part également certainement de la hache de cuivre. Hein, le cuivre pouvait être affiné, le tranchant pouvait être affiné à l'aide de ce retoucheur. C'est un outil qui était tout à fait particulier. On a retrouvé également un arc, j'ai pas de photo, on a retrouvé un arc qui était quand même relativement très long puisqu'il faisait 1,82 m, hein, on le voyait sur la représentation tout à l'heure, la reconstitution, il faisait 1,82 m, mais on n'a pas retrouvé la corde de l'arc. La seule chose qu'on a pu noter concernant cet arc, c'est qu'il était enduit de sang animal, certainement dans un but hydrophobe, hein, pour éviter qu'il ne soit trop à l'eau et atteint par l'eau. Et puis on a retrouvé, donc, à 4 mètres de lui, vous vous souvenez, un carquois. Voilà son carquois. Il est en peau. Alors, celui-là, c'est en peau de... Eh ben, je ne sais plus de quoi... Voilà, il est en peau de chamois, c'est de la peau de chamois. Et d'autre part, il y a une baguette ici de noisetier, qui était en trois parties, d'ailleurs ça se voit très bien ici. Hein. Il fait quand même 95 cm de longueur, ce qui est quand même pas mal. Et ici en haut, il y a une espèce de clapet. En fait, il était, voilà ce clapet, vous voyez, toujours pareil, c'est cousu avec des points de surjet, toujours de la même manière. Et ici, il y a, vous le voyez, des flèches ou des ébauches de flèches. En effet, dans ce carquois, il y avait 12 ébauches de flèches et 2 flèches terminées. Alors, on a regardé, bien sûr, comment étaient ces flèches. Voilà la flèche terminée ici. Elle est en bois de viorne, c'est de la viorne, hein, du viburnum. Et puis ici, on a une pointe de silex. Et la pointe de silex est fixée à la partie, la longueur de viorne ici, par du brai de bouleau. Le brai de bouleau, c'est le brai BRAI, hein, c'est une substance avec de la sève et puis des substances qui sont chauffées, brûlées, qui donnent une espèce de goudron qui permettait donc de fixer la pointe de flèche. Et puis, bien sûr, on a dit des ébauches de flèches. Voilà une flèche non terminée. Vous voyez, on retrouve la même chose. Mais ici, au lieu d'avoir la pointe de flèche, eh bien, on a simplement une encoche dans laquelle pouvait être fixée ensuite la pointe de silex, qui donnait la partie très acérée de cette flèche. Alors, on a retrouvé, donc, je vous dis, 12 à l'intérieur de ce carquois. On a pu mettre en évidence, je n'avais pas de photo là, mais on a pu mettre en évidence à l'extrémité des flèches, il restait quelques fragments de plumes. C'était manifestement un empennage qui permettait, quand on bande son arc et qu'on tire, ça permettait à la flèche d'avoir une direction qui était normale, disons, et qui ne risquait pas d'aller n'importe où. Donc ça permettait effectivement d'avoir une stabilisation de la flèche en vol. On a trouvé aussi d'autres choses dans le carquois en question. On y a retrouvé des pointes de bois de serre. Donc ça devait servir éventuellement pour faire des pointes, des haleines peut-être, on ne sait pas. On y a trouvé également des tendons animaux. Des tendons animaux, il y en a tout un faisceau ici. Et on a également trouvé une corde de 2 mètres en fibre de tilleul. On a cru d'abord que c'était une corde pour l'arc. Mais manifestement, ces fibres de tilleul ne sont pas suffisamment résistantes pour assurer l'arc bandé. Donc, on ne sait pas à quoi il servait. Ça servait évidemment. Les tendons, c'était la trousse à couture qu'il avait. Et puis ça, c'était c'est pareil. Autrement dit, ce carquois servait aussi de trousse à outils. C'était la trousse à outils, la boîte à outils. On a trouvé, à côté de lui, pas loin de lui, une clé de portable, au moins un cadre de clé de portable. Vous direz, qu'est-ce que c'est que ça? C'est du bois de noisetier, donc une branche de noisetier, c'est très flexible. Et ici, deux planchettes qui étaient détachées, mais qui devaient être reliées, sûrement avec des lanières de cuir, qui devaient être reliées à l'arc qui est là. Et ça devait être, on a retrouvé quelques fragments, mais totalement abîmés, de fourrure, mais vraiment très très peu. Et on pense que c'était un sac à dos, en définitive, de l'époque. C'était en fait son sac à dos. Voilà, une clé de portage, comme on appelle cela. Et puis, auprès de lui, on a trouvé si vous vous souvenez, il y avait ici, donc ici, pour résumer, le bonnet. Ici, on a la clé de portage, tout au moins ce qu'il en restait. Ici, on avait l'arc. Ici, on avait la hache. Ici, on avait le carquois, qui était plus loin, qui avait été posé plus loin, par lui, manifestement. Et d'autre part, ici, on a retrouvé des petites boîtes. Deux petites boîtes, il y en a une qui est en bon état, pas l'autre, voilà celle qui est en bon état. C'est un récipient en écorce de bouleau. Et alors, on a l'écorce de bouleau et il y avait un fond qui était cousu sur ce récipient. et ces récipients en écorce de bouleau, vous savez, ça se fait beaucoup en Russie, ça aussi. On trouve encore à l'heure actuelle des petites boîtes en écorce de bouleau comme ceci. Eh bien, à quoi ça pouvait-il servir? Ça fait 18 cm de diamètre, 20 cm de haut, donc c'est pas très très grand, hein, c'est des petits seaux, des petits pots si vous voulez. Et il y avait au fond, on a retrouvé des traces de braise. Et d'autre part, dessus, il y avait des feuilles d'érable, hein, qui étaient donc dans ce pot. Alors, on pense, et c'est tout à fait plausible, et c'est bien raisonné, il devait y avoir là-dedans de la braise qui le transportait, autrement dit, le feu qui transportait, hein, de cette manière-là, et ça permettait, les feuilles permettaient de maintenir un petit peu d'humidité pour que ça se maintienne, ça ne brûle pas trop vite, et que ça maintienne donc cette braise. Ça servait, en fait, ça servait d'isolant. On a encore retrouvé, des choses, hein, sur lui. On a encore retrouvé deux boules de polypore du bouleau. Le polypore du bouleau, Piptosporus betulinus, c'est un champignon. Et c'est un champignon, vous direz, et c'est maintenu par des lamelles de cuir, ici des lanières de cuir, hein, et on a retrouvé ça à côté de lui. Et c'était en fait sa pharmacie. C'était sa pharmacie, en effet, le polypore du bouleau, jusqu'au 19e siècle d'ailleurs, on a utilisé le polypore du bouleau pour certains soins, en particulier pour assurer les cicatrisations et pour assurer la coagulation du sang quand il y avait une blessure. Et bien il utilisait déjà ça à cette époque. Pour terminer cette panoplie, on a retrouvé ça. On ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas ce que... Il y a 9 liens ici qui sont... c'est des liens qui sont en espèce de... C'est en peau torsadée, c'est de la peau torsadée. Et avec une rondelle de pierre ici, de marbre d'ailleurs. Hein, et on ne sait pas ce que c'était. Une espèce de martinet, mais enfin, ça ne peut pas être un martinet. Hein. Donc, on ne sait pas du tout à quoi ça pouvait servir. On n'en sait rien. Voilà. Autrement dit, on a fait le tour de notre Ötzi et de tout son équipement. C'est maintenant que se posent les problèmes. Le problème essentiel de notre enquête. Qu'est-ce qu'il faisait là, hein, au milieu des glaciers? D'autre part, d'où venait-il? Et d'autre part, comment est-il mort? Alors, on va essayer de répondre un peu à ces questions. Nous sommes en pleine montagne, hein, au niveau des glaciers ici, à plus de 3500 mètres d'altitude quand même. Hein, c'est pas de la collinette. Ce n'était pas, manifestement, ce n'était pas son lieu de résidence. Ça, c'est sûr. Alors, en fait, il venait du sud, c'est-à-dire de l'Italie actuelle, l'Italie n'existait pas à l'époque. Il venait du sud, et ça on le sait parce que on a retrouvé dans son estomac des grains de blé et d'orge cuits. Autrement dit, il avait dû manger une espèce de pain, hein, et on a retrouvé également de la chair fumée ou séchée de biche. Et le rôti de biche, ça coûte cher à l'heure actuelle. Ben lui, il s'en payait déjà. Donc, on a retrouvé ça, et ces animaux, eh bien, étaient élevés, effectivement, en plaine. Ils n'étaient pas là. On a aussi retrouvé dans son estomac, et ça, c'est intéressant, des grains de pollen d'ostria. Alors, l'ostria, vous me direz, c'est que ça. C'est une espèce de charme, hein, c'est ce qu'on appelle le charme houblon. Et c'est un arbre qui ne se développe qu'au sud des Alpes. Et qui fleurit au printemps. Eh bien, voilà des informations très intéressantes. Parce que ça nous permet de dire quoi? Puisqu'on a retrouvé cela, il avait manifestement ingéré ça avec de l'eau de boisson. Hein, ces grains de pollen, c'était ingéré avec de l'eau de boisson. Mais ce que ça nous permet de dire quoi? Ça nous permet de dire qu'il est mort au printemps. Hein, d'autre part, qu'il venait du sud de l'Italie, puisqu'il n'y a que là qu'on trouve ce genre d'arbre. Hein, et il avait pris son dernier pas il y a 9 à 12 heures à peu près. et là, pour se retrouver là où il est mort. Mais pourquoi ce déplacement ? Hein, c'est bien de dire qu'il est venu de la plaine, là-bas, où il y avait des ostrias. Mais pourquoi est-il mort là ? Alors, il y a plusieurs hypothèses qui se sont succédées. Une première hypothèse, son voyage a été bien préparé, parce que vous avez vu tout le matériel qu'il avait. Hein, donc, c'était un voyage qui était bien préparé. Il a tout un équipement, et il a pour faire un trajet. Et ce trajet, aujourd'hui, il est encore suivi par des bergers qui emmènent les troupeaux en transhumance. Donc, on a pensé que ça devait être un berger. Effectivement, l'élevage était déjà développé à l'époque. Hein, si on regarde ce petit tableau que j'ai repris, c'est les années avant Jésus-Christ, hein, ici. Et ça, c'est notre temps actuel. Ici, vous voyez le chien, belle lurette, moins 12 000 avant Jésus-Christ, on avait déjà, l'homme avait déjà domestiqué le chien. Mais vous voyez que vers 7 000 avant Jésus-Christ, on élevait des chèvres et des moutons. Vers 6 000, les bœufs et les porcs. Hein. Et le cheval, beaucoup plus tard, vers 3500, donc à peu près à l'époque de Tsi. Mais à l'époque de Tsi, donc manifestement, il y avait d'élevage d'animaux. Et en particulier, pour lui, de chèvres. Hein, si vous vous souvenez, la plupart de ses vêtements étaient en peau de chèvre. Donc c'est des chèvres domestiques, des chèvres donc d'élevage. Donc peut-être était-il parti avec un troupeau pour aller dans les alpages. Hein, on était au printemps, vers la fin du printemps sûrement, puisque les ostrias étaient en fleurs. Et on a pu mettre... d'autre part, il était quand même pas en très bonne santé, il faut le reconnaître. Il avait été malade, en effet, quelques 4 mois avant cette période. Comment est-ce qu'on le sait ? À cause de ses ongles. En effet, ici, on a les ongles qu'on a retrouvés sur lui, évidemment, et qui montrent des défauts de croissance à différents niveaux. Et ça, ça prouve qu'il avait des moments de faiblesse, si je puis dire, des moments de maladie. Et 4 mois avant, donc, il avait donc dû être malade. Donc, il est parti pas en très bon état. De plus, l'analyse de son gros intestin, oui, on a tout fait, hein. L'analyse de son gros intestin a montré qu'il hébergeait des vers parasites. En effet, ce sont des trichocéphales qui sont des vers parasites de l'intestin, ses voisins de la trichine. Alors la trichine, elle vit dans les muscles, mais les trichocéphales, ça vit dans le gros intestin. Et alors ça amène des diarrhées, mais aussi des saignements, hein, et donc par suite une anémie. Et là, il y en avait pas mal chez lui. Donc, ces trichocéphales, ces parasites qu'il hébergeait, évidemment, faisaient qu'il ne devait pas être en très très bonne forme. Ben, c'est peut-être joli, mais enfin, c'est pas. Il vaut mieux pas en héberger, hein. Et on s'infecte évidemment avec par l'eau de boisson, hein. C'est par l'eau de boisson qu'on s'infecte. Aujourd'hui, non, parce qu'on boit pas dans les ruisseaux. C'est pas conseillé. Alors, on a cru donc que c'était ainsi, et on y a cru pendant à peu près une dizaine d'années. Bien sûr, avec tout ça, ben, ça expliquerait qu'il était mort dans ces conditions. On y a cru à peu près pendant une dizaine d'années, mais on a fait l'étude sur place pour voir ce qu'il en était. On s'est aperçu qu'on trouvait des excréments de chamois, de bouquetins, autrement dit d'animaux sauvages, mais aucune trace d'animaux domestiques, aucune trace d'excréments d'animaux domestiques. Donc manifestement on aurait trouvé, puisqu'on trouvait bien les autres excréments. Donc notre affaire n'est pas valable. Rien ne prouve donc qu'il accompagnait un troupeau. Mais alors qu'est-ce qu'il faisait là ? Et l'enquête est rouverte. Deuxième hypothèse. Je vous avais dit que c'était un rebondissement, hein, c'est un cadavre exquis. Nous sommes à l'âge du cuivre. Et le cuivre est un métal précieux et rare à l'époque, hein, c'est le début. Ötzi possède une hache en cuivre, ce qui est quand même, nous l'avons dit tout à l'heure, rare et qui prouve que c'était quelqu'un d'important. Or, l'archéologue Anna Luisa Pedrotti a donné à cela un rôle primordial. Était-il forgeron ? Peut-être. Après tout, savait-il travailler le cuivre, fabriquer des objets, hein, peut-être que ça, c'est lui qui l'avait fabriqué. Et comme s'il était capable de fabriquer des objets comme ça, il passait un peu pour un magicien, en définitive. Hein, et quelqu'un qui pouvait être jalousé, au passage. Hein. Mais enfin, il était reconnu comme quelqu'un de très important. Ou bien, partait-il pour travailler le cuivre ailleurs, et non pas seulement vendre du matériel, on n'a pas retrouvé de matériel à vendre, hein, ou à échanger, à troquer. Alors c'était peut-être un commerçant itinérant, donc étranger, donc qui passait peut-être du côté de l'Autriche actuelle. Alors tout cela est évidemment très hypothétique, hein, c'est une autre hypothèse qui a été évoquée, mais c'est quand même très hypothétique. Jusqu'au jour où, le 27 juin 2001, donc 10 ans après, hein, l'analyse détaillée de Tsi se poursuivant, on s'aperçoit que sa mort n'était peut-être pas accidentelle. En effet, une analyse radiographique, on l'a passé à la radio, a montré que, à ce niveau-là, autrement dit au niveau de l'épaule gauche, c'est une vue de face, hein, une radiographie de face. Au niveau de l'épaule gauche, ici, voyez, il y a une pointe de silex. Autrement dit, une pointe de flèche. On va mieux le voir ici, c'est vu de dos, et on voit très bien cette pointe de flèche ici, hein, semblable à celle qu'on avait vue sur les flèches de tout à l'heure, qui se trouve là. Autrement dit, c'est Paul Gostner qui a fait cette étude, et la pointe de flèche à 2 cm sur 3, hein, au niveau de l'épaule gauche, et qui avait donné un trou dans l'omoplate, il y a un trou dans l'omoplate, on l'a vu après, et d'autre part, on a même pu mettre en évidence, voir sur sa peau, le point d'entrée de la flèche. Au niveau de la peau, au niveau du dos. Autrement dit, il s'enfuyait. Il était tué par le dos. Vous savez, à l'heure actuelle, quand on fait une enquête policière, s'il reçoit la balle par le dos, il s'enfuyait, il n'était pas en état d'attaque, etc. Or, cette flèche, je vous l'ai dit, avait fait un trou de 2 cm dans l'omoplate, et on a par ailleurs observé donc cette blessure. Autrement dit, Ötzi n'était pas victime d'une mort accidentelle et peut-être d'un assassinat. Mais pourquoi l'a-t-on assassiné ? La flèche est reçue dans le dos, donc comme je vous l'ai dit, donc il s'enfuyait. Ce n'était pas pour le voler. Sinon, la hache de cuivre, vous pensez bien qu'elle aurait disparu. Alors la hache de cuivre était là. Donc, des hypothèses toutes plus ou moins farfelues ont circulé. Hein, j'en parlerai pas parce que ça ne présente pas d'intérêt. Ce qui est certain, c'est que la flèche n'a pas atteint d'organe vital. Elle n'a pas percé d'artère, de veine, elle n'a pas percé le poumon. Elle a traversé l'omoplate, certes, mais elle n'a pas traversé le poumon. Sinon, s'il y avait eu une hémorragie, il serait mort en 15 à 20 minutes. Or, on a retrouvé des caillots de fibrine qui prouvent qu'il y a eu coagulation du sang. Donc il n'est pas mort dans les 20 minutes, c'est pas possible. Donc cette blessure était donc une blessure ancienne. En plus, il aurait fallu, s'il avait été seul, qu'il enlève la flèche, hein, il y a la pointe de flèche, il aurait fallu qu'il enlève la flèche. Or, telle qu'elle était plantée dans son dos, c'était pratiquement impossible de retirer la flèche. Et essayer de retirer une flèche que vous avez dans le dos ici, c'est absolument impossible. Hein. Donc, tout ça n'était pas... Et en plus, ça aurait été extrêmement douloureux. Hein. Il aurait donc reçu cette flèche des semaines, voire des mois avant. En effet, on a pu mettre en évidence qu'il y avait une ossification qui commençait à se refaire au niveau de l'omoplate. Donc, après, bien sûr, l'enquête se poursuivant. Hein. Donc tout cela paraît invraisemblable et on a pu dire qu'il avait été blessé, certes, mais auparavant et certainement donc dans sa région. En effet, en Italie. Alors, qu'en est-il ? À quoi cela tient-il ? Ce qui est sûr, c'est que, oui, ce que j'ai oublié de dire quand même, c'est que la pointe de flèche que l'on a trouvée, venait, elle, du sud de l'Italie. Elle n'était pas du nord, enfin du sud, pardon, pas de l'Italie, du sud des Alpes, et non pas du nord, du côté autrichien. Et ça, on en a la preuve, parce que les pointes de flèches, hein, c'est ce qu'on a vu, vous vous souvenez, sur la radio, c'est des flèches, des pointes de flèches qui ont cet aspect-là. Or, les pointes de flèches du sud de cette zone des Alpes sont avec un pédoncule comme ceci, alors que les pointes de flèches du nord n'ont pas de pédoncule. Donc, comme il a un pédoncule, il n'y a pas de doute, c'était une flèche qui était du sud. Alors, comment ça se fait ? Quatrième hypothèse. Des analyses plus poussées et plus récentes ont montré que Ötzi avait une entaille profonde à la main droite. C'est celle qu'on avait vue repliée tout à l'heure. On s'est aperçu qu'il y avait une entaille profonde à la main droite. Ce serait une blessure datant d'environ 18 heures avant sa mort. On est capable effectivement de définir ce genre de choses. Il faut dire qu'à l'époque, il y avait déjà des bagarres, des batailles qui existaient. Hein. Les plus vieilles traces de batailles que l'on connaisse datent du néolithique. Donc le néolithique, c'était avant, hein, encore vers 5000 avant Jésus-Christ. Donc on avait déjà l'homme n'est pas... Ça continue, hein, je vous signale. Bien. Mais peut-être y aurait-il eu une bataille à laquelle Ötzi aurait participé dans le village où il vivait. Ötzi aurait donc été un guerrier, voire peut-être un chef. N'oublions pas, il avait cette hache de cuivre, c'était donc quelqu'un d'important. Ce qui vient conforter l'hypothèse d'une bataille est que l'on a retrouvé des traces de sang sur une flèche, sur son poignard et sur son manteau. Et du sang qui n'était pas le sien. Et du sang qui était, je vous ai dit, quatre traces en fait, qui appartenaient à quatre personnes différentes. Donc manifestement, il devait y avoir eu une bagarre sévère. Hein. Vous me direz, mais comment on a su ça ? Eh bien tout simplement parce que depuis ces dernières années, on est capable d'analyser le sang et l'ADN, hein, et on a pu s'apercevoir que l'ADN était différent, et que les quatre taches de sang qu'on avait repérées appartenaient à des personnes différentes. Deux sur la flèche. Ça prouve donc que la flèche en question, il s'en était servi deux fois. Hein, puisque il avait certainement blessé quelqu'un ou tué quelqu'un avec la flèche qu'il avait tirée à l'arc, il avait récupéré la flèche et s'en était servi une deuxième fois. C'est net. Hein. Le poignard d'autre part et le manteau, bah, il s'est taché avec le sang d'un ennemi, certainement. Et alors, lui, il aurait été blessé puisqu'il avait cette blessure au fond de la main. Il a donc été blessé, il se serait alors enfui dans la montagne en emportant tout ce qui pouvait lui appartenir. Il est parti et il est arrivé à une période de l'année où les conditions climatiques n'étaient pas très favorables. On était au début du printemps, dans les glaciers, là-haut à 3500 mètres d'altitude. Ce n'est pas la période idéale pour faire de l'alpinisme. Il devait donc être épuisé par ses blessures, hein, épuisé, et il a dû poser ses affaires et puis mourir sur place. D'autant qu'il ne faut quand même pas oublier qu'il avait quand même pas mal de problèmes de santé. Hein. Si on résume ses problèmes de santé, il avait de l'arthrose. Bon. Il avait d'autre part une athérosclérose sérieuse. Tout au moins, il avait une prédisposition à l'athérosclérose. Vous savez, l'athérosclérose, c'est les plaques d'athérome, infarctus, etc. Donc, ça existait déjà, évidemment. Et il en avait, et ça, on a pu le savoir, parce que son ADN montre qu'il y a des gènes de prédisposition à l'athérosclérose. Donc, vous voyez, on a des preuves ici qui n'étaient pas, pour lui, très brillantes. Ça, c'est relativement très récent. Hein. C'est des études qui ont été faites en 2012 hein, sur le sang, sur l'ADN de Tsi. D'autre part, il avait cette parasitose intestinale qui devait provoquer des hémorragies, des diarrhées, comme nous l'avons dit. Il avait d'autre part, je n'ai pas encore dit parce qu'on ne l'a découvert que relativement récemment, il avait la maladie de Lyme. La maladie de Lyme, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. C'est une maladie que l'on attrape par les piqûres de tiques. Hein. Et on a alors une bactérie, une borrelia, qui se trouve dans l'organisme et qui risque de, qui peut, si ce n'est pas soigné, qui peut mener à la mort. Aujourd'hui, ça soigne bien les antibiotiques, mais à l'époque, il n'y en avait pas. Et vous me direz, mais comment on a su qu'il avait la maladie de Lyme ? Eh bien, tout simplement parce qu'on a retrouvé de l'ADN de Borrelia, le Borrelia étant la bactérie correspondant à cette maladie. Donc on a retrouvé ça. Alors, bon, il est peut-être mort de cette manière-là. Et puis, en 2013, l'année dernière, une analyse d'un petit prélèvement du cerveau, là, il y avait des petites taches noires, qui paraissait suspecte, et on a prélevé la taille, parce que tout le monde ne peut pas se servir comme il veut sur ce cadavre, hein, mais on a prélevé gros comme une tête d'épingle de la matière cérébrale ici qui restait, et pour l'analyser à l'endroit où il y avait ces taches sombres qui posaient problème. Et c'est, comment il s'appelle, Frank Meissner, qui a l'Académie européenne de Bolzano a étudié cela et il s'est aperçu qu'il y avait là des protéines au niveau du petit prélèvement qu'il a analysé, des protéines qui ne sont présentes que dans les caillots sanguins. Autrement dit, notre brave Tsi a dû faire une hémorragie cérébrale. Tsi serait donc mort de cette hémorragie cérébrale. Peut-être à la suite, n'importe comment, le reste, ça reste valable. Il s'est bagarré, il a reçu il avait ses flèches, etc. Il était blessé à la main, il est parti, et peut-être a-t-il fait une hémorragie cérébrale. Est-ce qu'il a reçu un coup sur la tête qui expliquerait cette hémorragie cérébrale ? Ce n'est pas non plus impossible. La question reste ouverte. Et le mystère de Tsi n'est pas encore résolu, la preuve. Si le mystère de Tsi n'est pas totalement éclairci, il n'en reste pas moins que du point de vue paléo-anthropologique, c'est une découverte extraordinaire. C'est extraordinaire. Car aucun homme de cette période aussi lointaine, 5200 ans, il ne faut pas oublier, n'a été retrouvé dans un aussi bon état de conservation. Ah ben parce qu'il y a eu la chance que c'était au niveau d'un glacier et qu'il a été conservé par la glace. Hein. Manifestement, les conditions climatiques ont été donc tout à fait favorables pour qu'on ait toutes ces informations. C'est vraiment le seul cas que l'on connaisse hein, à ce point-là. Alors de ce fait, il est devenu célèbre, bien sûr, Tsi. Certains d'entre vous ne le connaissaient peut-être pas avant de venir ici, mais il est malgré tout connu et il a été largement étudié. Il est devenu célèbre et si vous allez à Bolzano c'est là, si vous allez à Bolzano, vous pourrez le voir au musée archéologique de Bolzano, dans sa chambre blindée, si je puis dire, ici, où vous ne pouvez le voir qu'à travers ce hublot. Maintenant, si vous êtes des alpinistes distingués, vous pourrez aller à l'endroit où il a été retrouvé, juste à la frontière, là-haut, hein, au Tisenjoch, et là a été élevée d'ailleurs une stèle de 4 mètres de haut pour commémorer voilà, la présence de Tsi qui a été trouvée à cet endroit. Alors vous me direz, effectivement, Tsi est italien, enfin les Allemands, les Autrichiens et les Allemands ont quand même beaucoup travaillé sur Tsi, hein, parce que c'est eux qui ont fait le gros du travail, et ils ne sont pas restés sans faire quelque chose. Et là-haut, à Umhausen, ils ont créé un parc d'attractions, hein, Voilà, un parc d'attractions, Ötzidorf. Hein, Dorf, c'est le village de Ötzi, à Umhausen, où il y a toutes sortes de distractions possibles. Voilà donc ce que l'on peut dire ici. Comme vous le voyez, Ötzi est honoré donc dans toute la région, hein, mais il n'en reste pas moins que le mystère de sa mort n'est pas élucidé totalement. Hein. Il est vraiment l'objet de la plus vieille affaire judiciaire, et je dois dire, il n'y a pas de prescription. Ötzi vous remercie.
Pour nous, on a beaucoup de chance hein, pour l'attraper.
Est-ce qu'il y a un livre qui raconte ça?
Comment?
Est-ce qu'il y a un livre? C'est une
histoire. Oui, mais en langue française, il est très difficile à trouver. Heureusement, quelqu'un me l'a prêté. Sinon, il est en langue italienne. Pierre Stellen me l'avait prêté. Il y en a en langue allemande aussi. Je ne pratique pas du tout l'italien. L'allemand, je bafouille, mais je ne... Je le lis pas couramment quand même. Et puis, bon, là, c'est quand même des choses complexes à comprendre. Hein. C'est pas, on ne peut pas survoler. Donc, mais il existe effectivement ce livre. Je l'ai là, d'ailleurs. Ben, je ne me suis pas basé que là-dessus, mais enfin, essentiellement là-dessus. Voilà. C'est Ötzi, l'uomo venuto del ghiaccio. Ici, il est en italien. Hein. Et il y a le plus grand nombre des images que je vous ai projetés ont été repris là-dedans, bien sûr. Je les ai retravaillés, bien sûr, vous vous en doutez. Hein. Mais voilà, donc c'est écrit par Angelika Flinkinger, qui est donc d'Innsbruck, et qui est de l'université d'Innsbruck, et qui a fait ce bouquin, et en a fait une nouvelle édition, je crois, d'ailleurs.
Quelle année
c'est ça, la première édition, c'est 1900... Celle-là, je ne sais pas. Oui, ça a été refait, je crois. J'en sais rien, je ne sais pas où.
Attends, au début,
bah oui, habituellement, mais là, je ne vois pas. Non, parce qu'il y a une grande image, mais il n'y a pas de...
Il y a de l'espoir pour nous.
Ah si, attendez, c'est là. Ça, c'est 2007, celui-là. Mais il y en a d'autres, peut-être plus récents. Hein. Il est bien évident que je n'ai pas eu que ça comme document. Hein. J'avais d'autres documents. J'ai été en chercher sur Internet, etc. Ce qui est 2012, 2013, enfin, les histoires d'ADN et tout ça, c'était pas encore connu à l'époque.
Donc, les dernières informations, c'est 2013.
Ah oui, 2013. En mai 2013, ouais. On a découvert, on a analysé, disons, ces caillots qu'on a trouvés au niveau du cerveau. Hein. Oui.
Oui, je trouve quand même très étrange qu'un homme qui n'était pas du tout en forme et choisisse cette route pour s'enfuir. Je
n'ai pas pu l'interviewer. Hein.
C'est pas la route la plus facile,
sans aucun doute. Maintenant, était-il habitué à aller en montagne? Je sais pas. Hein. Peut-être qu'il était comme Messner, là, que je vous ai montré au début, hein, qui a fait l'Himalaya. Il a fait des trucs extraordinaires, ce Messner.
Non.
Non, on ne sait pas ça. On ne sait pas du tout. On ne sait pas du tout. Là, on n'a pas de trace du tout. Là, ce qu'on a comme document extraordinaire, c'est qu'il a été dans la glace. Hein. Mais d'où venait-il? Je vous dis, on peut l'affirmer à cause, en particulier, des grains de pollen d'Austria. Hein, ça, c'est la preuve qu'il venait du sud et qu'il venait de la plaine, là où il y a ce charme houblon qui pousse. Il ne pousse pas de l'autre côté, il ne pousse pas en Autriche, il ne pousse pas non plus dans la montagne, hein, il est en plaine, donc il devait venir du Val Venosta, là, dans ces zones-là. Mais où? Non, on n'a pas de traces.
Enfin, peut-être...
Comment ?
Il était peut-être en fuite.
Ah ben là, il était sans aucun doute en fuite. Hein. Enfin, sans aucun doute.
je m'avance un peu trop. Il semble bien qu'il ait été en fuite, puisqu'il a été blessé, etc. Et il a quand même, manifestement, il a posé son matériel, hein, puisque vous avez vu, le carquois est à 4 mètres, l'arc est de l'autre côté. Il a posé son. Il devait être complètement épuisé. Peut-être a-t-il été pris dans une tempête de neige, c'est aussi possible. On n'est qu'au printemps. Hein.
Ou alors c'est le glacier qui a fait éparpiller ses affaires.
Ah non, ça semble pas. Ça semble pas. Il semble qu'il est, il est vraiment. On peut imaginer, évidemment, là c'est l'imagination qui court, mais on peut imaginer qu'il est, il a été pris dans une tempête de neige, il a été recouvert par la neige, ça a gelé, ça a formé un névé dans lequel il a été enfoui. Et là, si on l'a retrouvé, c'est premièrement, il n'était pas sur le chemin. Normal, hein, c'est parce que Simone, Helmut et Erika Simone sont passés à travers, n'ont pas suivi le chemin, hein, et qu'ils l'ont trouvé. D'autre part, on est au mois de septembre, c'est la période quand même où les glaciers sont le moins gelés. Et par conséquent, il a été dégagé à ce moment-là. Il était peut-être dégagé à d'autres périodes, mais après il reneige, il est réenfoui, etc. Oui.
D'animaux, enfin,
l'ADN. Ah non, manifestement c'est de l'ADN humain. C'est de l'ADN humain, donc c'est pas des animaux. C'est pas du sang animal. On a retrouvé du sang animal sur son arc, ça c'est sûr. Hein, mais ça, on pense que c'est simplement, il avait imprégné de sang cet arc en bois d'if pour lui donner, pour éviter qu'il soit. Qui soit mouillé, je dirais, hein, et c'était un produit hydrophobe en définitive. Mais sinon, les traces de sang qu'on a trouvées sur ses flèches, sur sa flèche, sur son poignard et sur son manteau, c'est du sang humain et qui n'est pas le sien, puisque le sien, bien sûr, on a analysé l'ADN également.
Est-ce qu'on connaît l'historique des glaciers dans la région? Parce que depuis 5000 ans, les glaciers ont...
Oui, mais on est quand même... Non, on est... La dernière glaciation s'est terminée il y a 10 000 ans. Hein. Würm s'est terminé il y a 10 000 ans. Et après, on est en altitude quand même. On est à 3500 mètres. Et c'est une zone où il y a des glaciers permanents. Tout le Zürtal, le Zürtal Alpen, là, c'est une zone de glaciers. Donc, manifestement, les glaciers ont toujours dû, même dans les périodes interglaciaires, on n'a jamais eu des périodes très chaudes. Hein. On a des périodes interglaciaires.
Même à l'époque actuellement, enfin, un glacier peut se déplacer d'un kilomètre sur...
Ah oui, vous voulez, attention, ce que j'appelle glacier ici, c'est des névés, hein, c'est pas un glacier comme la mer de glace où là, effectivement, il y a un écoulement, c'est une sorte d'un glacier, au sens où vous l'entendez, c'est effectivement un fleuve de glace, hein, qui se déplace, ça c'est sûr, mais là, il n'y a pas de déplacement, c'est simplement des névés qui restent toujours au même endroit.
Il n'est pas possible qu'il soit tombé dans une crevasse et que le glacier l'ait transporté là.
Non, certainement pas, parce qu'il devait être sur un chemin malgré tout. À l'heure actuelle, là où il est, si je puis dire, en fait, dans la zone où il se trouve, il ne se trouve plus, où on l'a trouvé, c'est une zone où il y a effectivement encore à l'heure actuelle des passages de troupeaux en transhumance.
Moi, je trouve curieux qu'il n'ait pas été dévoré par un animal.
Il était dans la glace. Il était dans la glace. Ça devait varier. Ça devait varier en fonction de la neige qui tombait, de la glace qui se formait, etc. Là, les Simones ont eu de la chance de le retrouver parce qu'il s'est trouvé dégagé à ce niveau-là, hein, et qu'ils sont passés là.
Et
qui ne suivaient pas le chemin balisé. C'est surtout ça qui leur a permis de le retrouver. Oui. Oui, enfin, ça c'était en 91, c'est vrai ce que vous dites, hein. Il y a effectivement une fonte, il y a un réchauffement climatique, hein, et par conséquent, il y a dû y avoir une baisse, une fonte plus importante des glaciers dans cette zone-là, comme partout ailleurs. Hein, quand on regarde le glacier du Brévent dans la vallée de Chamonix, hein, on s'aperçoit que le glacier du Brévent, par rapport au début du siècle, des photos du début du siècle et des photos de maintenant, il a énormément reculé. Hein, donc il y a manifestement... Certainement, il a été dégagé en particulier à cause de ce réchauffement climatique, voilà. Sûrement.
Il a certainement été dégagé à cause de...
de ce réchauffement climatique peu de temps avant le passage.
Ah, sûrement, sûrement, bien sûr.
Sinon, l'exposition d'un corps ne serait-ce qu'un été, ça l'aurait dégradé.
Ah, ça l'aurait... N'importe comment, il était quand même, sur la partie dorsale, il était quand même pas mal dégradé déjà. Hein. Vous avez, je ne l'ai pas insisté, je ne l'ai pas dit, il y a une au niveau du crâne, il y a une zone qui est abîmée. Hein. Mais on pense que c'est postérieur et que c'est pas du tout, c'est pas au moment où il est mort que ça s'est produit. Hein. Bon.
Maintenant, on va retrouver les copains.
Comment ?
On va retrouver ses copains bientôt.
Qui sait ? Je sais pas s'ils étaient plusieurs. On est, c'est le seul qu'on ait retrouvé.
On va aller à Corfu pour voir.
S'il vous plaît.
Ma question, c'était justement, s'est-il accompagné et les autres ont défilé en Autriche
Alors là, là, je sais pas, là, on ne sait pas du tout, hein. C'est le seul qu'on ait retrouvé, c'est sûr. Attendez. Ah non, 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 c'est la question m'a été posée tout à l'heure. On n'en sait rien. Manifestement, il venait de la zone du Val Venosta, dans cette zone-là, hein, c'est-à-dire la plaine de l'Adige, hein, du côté de Merano. C'est pas très très loin de Merano. Hein, je ne sais pas si vous vous souvenez des photos. Moi, j'ai pas. C'est une des hypothèses, hein, l'assassinat.
Oui, mais à supposer qu'il y ait eu un assassinat, il n'y a pas eu de recherche de dissimuler le crime, puisqu'il est resté pratiquement intact avec les objets. Avec
oui, c'est pourquoi cette thèse, c'est pourquoi cette thèse de l'assassinat est tombée en définitive. Hein, je vous ai donné les différentes hypothèses, hein, c'est un rebondissement comme dans un cadavre exquis, et je vous ai donné les différentes hypothèses au fur et à mesure qu'elles ont fait, qu'elles ont émergé. Hein. Parce qu'on a d'abord pensé au berger, après au forgeron, après à l'assassinat. C'est seulement en 2001 qu'on s'est aperçu qu'il avait une pointe de flèche dans l'omoplate. Comment ? Mais en 2001 seulement, 10 ans après, donc on avait déjà émis des hypothèses. Les premières hypothèses, elles datent d'avant 2001. Ah oui, manifestement, il a vécu avec la... Vous savez, il y a des gens qui, après la guerre de 14, ont vécu avec des éclats d'obus. Hein. C'est pas... Mais au début, on a cru que c'était ça qui l'avait tué, bien sûr. Mais je vous ai dit, il n'y a eu aucun organe vital qui a été touché. Enfin, organe vital, une veine, une artère, le poumon, etc.
Bon, c'est passionnant, merci. Les coups de fouet, là, il y a la fustigation, là,
Ah mais ça on sait pas. On peut pas dire à quoi ça pouvait servir, on n'en sait rien. C'était sûrement pas un martinet, hein. Oui. Alors là, je suis pas devin, j'en sais rien. Hein, moi, je suis pas archéologue, je suis pas anthropologue ni archéologue. Par conséquent, je sais pas. Moi, je ne fais que relater les différentes hypothèses, bon, que je vous ai présentées d'une certaine façon, mais dans un ordre chronologique, hein, pour les hypothèses de sa disparition. Ah, il est toujours en étude. Hein. Merci. Je n'ai pas été trop long, ça va. J'ai fait mon temps.
Ça rappelle l'histoire de l'archer de Saint-Lé.
De l'archer.